Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on écoute Faire le plein amour, le quatrième et dernier épisode pour le moment, une émission proposée par Les Menstruels, un collectif de correspondance à voix multiples que l'on retrouve régulièrement dans Gymnastique Sonore. Loin des histoires à l'eau de rose, des contes de fées et des comédies romantiques, cette sélection sonore Faire le plein amour, toute subjective et sensible, nous parle de notre rapport à l'intimité.
Menstruel, adjectif.
Cavaleuse, Fisionne, substantif,
qui a rapport au menstrue.
Argot.
Éclaté, verbe intransitif.
Clandestine, adjectif.
Hémorragie menstruelle.
Coureur de filles, coureuse de garçons.
Journal clandestin, presse clandestine.
Domaine des sensations, domaine de.
Les filles sont ordinairement pubères vers l'âge de 11 ou 12
qui
ans.
Qui existe.
Entre parenthèses, trois petits points.
Fonctionne.
Se briser avec violence.
Se fait de manière secrète.
Soudaineté.
En dehors de ceux qui exercent l'autorité.
En projetant des fragments.
À l'encontre des
ballons,
lois établies.
Mine, vitres qui
l'abondance de cette évacuation périodique varie chez les différents individus.
Assemblée, démarche,
les gamins
de la procédure normale et licite.
Le gonflement des mamelles et l'éruption du flux.
Emploi adjectif.
En sont les présidents.
Surtout en Espagne et en Italie.
Bon matin, le récipient dans lequel je fabriquais de l'hydrogène m'éclate
de l'hydrogène.
Il ne serait pas du cavaleur.
D'un choc ou d'un changement
de l'abattement, de l'hypotension avec tendance au lipotimie.
En parlant d'un inanimé menstruel fréquent.
Entre parenthèses, Rossignol. dict.darg.arc.fr et fr.arc.1901, page 24.
Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
Notre amour a commencé un soir de juin. T'étais tellement bourré que t'es tombé dans l'escalier. Je t'ai ramassé et dorloté notre si belle et si tendre que le HLM en tremblant encore. Je t'ai ramené tous les soirs pour pas que tu tombes dans l'escalier. Et ta bouteille s'est pas pétée, t'as décrété entre deux demi que tu m'aimais. T'as voulu le prouver entre mes seins, tu t'es endormie.
Les menstruels présentent Faire le plein amour. Une série d'interviews concoctées par Margot Séon.
Sophie, 61 ans. J'ai eu aucune éducation à l'amour et à la sexualité. Absolument rien. Ma mère m'a même pas parlé de ce que c'était que les règles. Et quand ça a débarqué, elle m'a filé une espèce de grosse couche dégueulasse. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Je veux surtout pas mettre ça. Donc c'est moi qui me suis renseignée, qui ai posé des questions à mes copines, et voilà. Et l'amour, vu que mes parents ont divorcé quand j'avais 11 ans, non, on n'a pas parlé d'amour. Alors, avec mon mari, on s'est rencontrés quand on avait 18 ans. Quand j'avais 18 ans, j'étais danseuse. Ma mère avait une école de danse à Paris. Et il s'est inscrit à la danse. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On n'est pas sortis ensemble tout de suite, on est restés copains pendant au moins 7 ou 8 ans. Lui, il était amoureux de moi, mais moi, j'étais pas amoureuse de lui. Et donc, on a eu une relation d'amitié puissante, à vivre plein de choses très drôles ensemble. C'était plus mon confident, et j'aimais bien avoir un homme confident. Voilà, et puis cette histoire a duré pendant quelques temps. Après, on s'est perdu de vue, parce que lui, il a arrêté la danse, et voilà. Et moi, j'étais danseuse, et j'étais tout le temps en tournée, tout ça. Et puis arrivé un moment, donc j'ai vécu mes histoires, et arrivé un moment, je me suis dit que l'histoire d'amour que j'avais avec lui, d'amitié, en fait, elle était, c'était super, et que je n'aurais jamais cette complicité avec un autre homme. Et donc c'est moi qui suis retournée l'attraper. J'avais 27 ans quand on s'est mariés, donc ça fait combien de temps qu'on est mariés? Ça fait plus de 30 ans. C'est complètement incroyable. En tout cas, je ne pensais pas du tout à fonder une famille. Et il m'a mis ça dans la tête. Et j'ai dit, OK, pourquoi pas faire un enfant? Ouais, ce serait super. Et Et là est arrivée l'idée du mariage, c'est-à-dire que ma mère m'a dit, ok, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, elle ne m'a pas dit, waouh, super, génial, magnifique. Elle m'a dit, ok, c'est quand que tu te maries. Donc là, ça a été vraiment le coup de semonce. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle réagisse comme ça. Bah, moi, je n'avais pas envie de me marier. Ce n'était pas ça l'idée, on voulait juste avoir un enfant. Mais je bossais avec ma mère. Et donc, j'étais en permanence en contact avec elle. Et je commençais à être super sensible, puisque dès qu'on commence à porter un enfant, ça y est, tout est autrement, en fait. Dans la perception de la réalité, tout est à fleur de peau, c'est génial. Sauf que cette chose-là, c'était pas génial. Donc bref, sans rentrer vraiment dans les détails, on a fini par se marier. Ça a été un moment extrêmement pénible. On n'a pas choisi de se marier comme on a voulu, où on a voulu. Ma mère nous a imposé plein de trucs. Je me suis laissée faire parce que l'éducation que j'avais ne m'a pas permis de lui dire non, je refuse. Et je n'ai pas réussi à faire ça. Elle avait énormément d'emprise sur moi. Lui, il est né au Maroc. Il est arrivé en France pour poursuivre ses études après le bac. Moi, tout le monde est né en Algérie. Et tout le monde est arrivé en France vers 60, viré d'Algérie. Donc je me traîne ce déracinement. Moi, je suis née à Paris, mais je me traîne ça. Donc on a un espèce d'héritage culturel avec la famille. Ce qu'on doit faire dans la famille, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, le regard des autres, le jugement, etc. Et on est tous les deux en rébellion face à ça. Donc on a vécu des histoires très difficiles avec nos familles, parce qu'on n'a pas accepté, j'ai accepté de me marier, il a accepté, parce que quand même, c'est la famille, mais derrière ça, on s'est barré. À chaque étape, en fait, à chaque étape difficile de mon existence, j'ai eu des problèmes avec ma famille, c'est-à-dire que je n'ai pas été soutenue. Donc ça nous a vraiment énormément rapprochés. Et ma famille a créé du conflit entre mon mari et moi. Et cette pression a continué encore et encore, jusqu'à la naissance de mon deuxième enfant. Et ça ne part pas d'une mauvaise intention, sauf que tous les choix qu'on a faits n'étaient pas conformes à ce qu'on aurait souhaité de nous. Mais on a quand même tenu notre barre, et on a réussi à faire ce qu'on avait décidé de faire, en étant toujours très en conflit avec nos familles respectives. Et on a tous les deux à cœur de se libérer de ce carcan insupportable. On est en rébellion par rapport à ça. Et notre force de rébellion, elle se manifeste de manière différente, mais elle est aussi forte. Et donc, on a aussi élevé nos enfants un peu dans cette colère. Donc là, c'est un peu l'échec de ça. Donc eux, maintenant, c'est eux qui vont voir les psys. Bon, on fait beaucoup moins l'amour qu'avant. Mais, oui, c'était très exalté quand on était plus jeune. On a expérimenté plein de trucs. C'était chouette. Après, mon premier enfant est arrivé, j'ai eu besoin d'un petit moment de calme, sexuellement. J'avais pas trop de désir. Et puis après, c'est revenu. Et on a eu... comment te dire ? Oui, on a eu une vie sexuelle, je sais pas... équilibrée, on va dire. Pas démoniaque, hein. Non, pas démoniaque. Parce que notre relation... elle n'est pas basée sur le sexe. Elle n'est pas basée sur le sexe. Alors, bien sûr, le sexe est là. Et on s'éclate bien, lui, ça va. On se marre bien. Mais c'est pas... j'ai vécu des histoires d'amour avant lui qui étaient bien plus exaltantes sexuellement. Là, c'est autre chose. C'est plus profond. Peut-être que je pense que j'aurais aimé pouvoir avoir les deux. Vivre une relation sexuelle plus exaltante et avec cette relation forte de connexion spirituelle. On a une relation vivante, libre, indépendante, un peu consensuelle, dans le sens où on s'ajuste, Mais en fait, elle est mouvante, notre relation. Et ça, c'est très important. Libre indépendance, ça veut dire que on se rendait compte de temps en temps. On n'est pas ensemble forcément tout le temps. Moi, j'ai besoin de vivre ma vie, en fait. On s'est dit que si on avait des opportunités de sortir avec Pierre, Paul ou Jacques de son côté ou du mien, la vie était trop courte et que donc, on s'en parlerait pas. Je sais pas si ça s'est passé de son côté. Ça m'intéresse pas de le savoir. Et lui, ça l'intéresse pas de savoir si ça s'est passé de mon côté. Ceci dit, c'est drôle parce que c'est quand tu instaures quelque chose comme ça que, en fait, tu renforces les liens de la personne avec qui tu es. Donc, je sais très bien que s'il y a quelque chose qui se présente, voilà, ben, s'il y a un mec qui me plaît, il n'y a pas de problème. Je fais ce que je veux, en fait. Voilà. Ça, c'est vachement bien. Ça fait un bon moment. Ça fait au moins 10 ans. Ça fait depuis que les enfants sont partis de la maison. On fait attention l'un à l'autre. Allez. On a plus d'égards, on est... Oui, on prend soin. On est conscient qu'on vieillit et qu'on a besoin de prendre soin l'un de l'autre.
Le 25 ou 26 octobre 2023. Donc je m'appelle Sylvain et j'ai 46 ans. Mes parents se sont rencontrés très jeunes. Ma mère a rencontré mon père à 17 ans. Elle était enceinte dans la foulée. Et voilà, c'était le début de leur vie de famille qu'ils n'ont jamais remis en question, on va dire. Et après, j'ai reçu aussi une éducation religieuse très stricte de la part de mes parents, qui sont témoins de Jéhovah. Et qui fait que ça n'a pas facilité non plus les rencontres, puisque dans leur code, en fait, on choisit une personne et on s'y tient pour la vie, quoi. Et c'est en sortant de ce mouvement religieux que je me suis autorisé à rencontrer d'autres personnes et que j'ai rencontré une personne dont je suis tombé amoureux, qui était la mère de mon premier enfant. J'avais 22 ans, elle faisait ses études sur Saint-Étienne puis Aix-en-Provence. Moi, je venais de prendre un emploi dans la région de Grenoble. J'étais technico-commercial à cette époque-là, dans une autre vie. Assez rapidement, elle a été enceinte, on s'est mariés même. Je pense qu'il y avait encore des réminiscences de culpabilité judéo-chrétienne, je pense, en moi. Enfin, c'est sûr même. Et on s'est installé, on était vraiment tout jeune. Moi j'avais 22, 23 ans, elle avait 18 ans ou 19. Et on a divorcé 2 ans plus tard. Quelques années plus tard, j'ai rencontré la mère de mes 2 autres enfants avec qui j'ai vécu 17 ans. Je devais avoir 24 ans, 25 peut-être, complètement par hasard. Ça a tout de suite accroché, on s'est revus et puis on a attaqué. Bien en tête une histoire relationnelle. Oui, je suis tombé amoureux, clairement. Et on a eu envie de se rapprocher. Et puis après, il y a eu aussi un peu des peurs de ouf, qu'est-ce qui va se passer si on est trop proche. Donc il y a eu des espèces d'ajustements. Ça a été le début de la peur de la fuite ou de l'abandon, qui reste toujours un petit peu présent. Et après, oui, assez rapidement, on a fait le choix de vivre ensemble. On s'est installé à Beaufort, là, pas loin d'ici. On a laissé faire les choses, en vrai, en tout cas en termes de famille. J'aime bien dire que nos enfants sont invités dans la vie, c'est-à-dire qu'on ne les a pas planifiés. On ne s'est pas dit, tiens, on a envie d'avoir des enfants. C'est une erreur de contraception, on va dire, ou des erreurs de contraception qu'on fait qui sont apparues, mais je suis assez lucide sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de hasard, c'est que je crois qu'on était prêts et qu'on avait envie. Et on ne s'est pas posé beaucoup de questions. On avait envie de relationner ensemble, on avait envie de vivre ensemble. Et puis on avait envie de partager des projets. Et c'est ce qu'on a fait, puisqu'elle s'est installée en agricole. Moi, je l'ai aidée sur son installation, ça a duré des années. Et c'est après, dans le cours des années, où on s'est rendu compte qu'il y avait des zones où on n'était pas nourri, où c'est là qu'il a commencé à y avoir des zones d'ombre qui se sont découvertes. Dès le début, il y a eu une accroche très forte et, en tout cas pour moi, une inquiétude aussi sur le fait qu'elle pouvait fuir éventuellement. Je ne sais pas d'où je tenais cette inquiétude. Avec un besoin d'être assuré, un besoin de présence. Et les premières vraiment dissensions dans le lien, elles sont apparues peut-être 5 ans après, 6 ans après. Une personne qui était très indépendante, très brillante, très à l'aise en société, qui rencontrait beaucoup de gens, qui avait eu beaucoup d'histoires dans sa vie, qui était plutôt légère dans sa façon de rencontrer. Et moi, j'avais pas du tout le même cursus ni le même parcours. Du coup, il y avait cet inconnu, cette interrogation de qu'est-ce qui va se passer par la suite. Est-ce que ma présence va suffire ou est-ce qu'elle aura besoin de se nourrir ailleurs, d'autre chose? Je crois que ça venait de cet endroit-là. On avait un rythme intense au niveau du quotidien entre son activité agricole, moi j'avais d'autres activités, les enfants en bas âge. On n'a jamais fait garder nos gosses, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de garderie, pas de. On les a fait garder quand on avait besoin de s'évader, et ça on l'a toujours fait auprès de copains ou de la famille. Et on a toujours maintenu un espace de où on pouvait se retrouver, nous, en binôme. Et s'évader, et ça, c'était merveilleux pour ça, quoi. Mais à la fois, il y avait le rythme intense, et puis, comme dans beaucoup de relations, pour pas dire dans toutes, il y a des rapports de pouvoir et de dépendance qui s'installent. Et on s'est nous-mêmes inscrits dans des rôles. On était ultra complémentaires, on a formé une équipe d'enfer pour la logistique et la gestion de tout ce qu'on a mis en place. Mais en termes émotionnels, amoureux, humains, j'étais en reste. On parlait beaucoup de plein de trucs, mais tout ce qui concernait les sujets personnels, émotionnels, intérieurs, non, c'était pas vraiment abordé. Et même moi, j'avais pas conscience que ça ne l'était pas assez. Il y avait un truc qui me gênait, mais j'arrivais pas à définir quoi. Et c'est après, avec le temps, que j'ai réussi à mettre des mots dessus. Et à mettre le doigt sur les zones où j'avais besoin que ça bouge.
j'ai largué les amarres. À force de perdre le cap, je suis à la dérive. J'ai le mal de mer et j'aperçois l'orage. Le vent me souffle qu'il faut partir au large. Même les rats quittent le navire, c'est pour dire. Y a du tonnerre dans l'air et un gros hic dans le cockpit. Moi, je pensais partir pour une croisière et je me retrouve homme à la mer. J'aimerais te dire à l'abordage, mais je ne suis que marin. C'est plus l'amour. Et tes larmes salées n'y changent rien. Je bois la tasse dans nos filets. Et je me fais bouffer par les requins. Ciao, ciao chérie, je pars. Plage de doux parfums. Ciao chérie, ciao chérie.
Oh ben ça a pris plein de temps parce que moi j'ai pas lâché le morceau et j'ai eu de cesse de lui répéter qu'en fait j'aurais aimé qu'on trouve des idées, des solutions au niveau de l'intimité. On avait très peu de rapports sexuels à ce moment-là et on est allé voir une sexologue sur Valence à ma demande. Et ce qui est super drôle, c'est que ça a peut-être duré 2 ans cette aventure avec cette thérapeute, mais on a parlé de tout sauf de cul. Et du coup, on a énormément parlé de discussion, de considération, d'exprimer les choses, d'écoute, de compréhension de à quel endroit l'autre se trouve. Et ça a été, à partir de là, le départ d'une... Pour moi, de vraiment la découverte de qu'est-ce que c'est vraiment une relation qui prend corps et qui a du jus. Suite à ça, on est même allé faire des stages de tantra où là, ça a été une découverte de folie sur sur notre intériorité chacun. C'était, en tout cas pour moi, c'était une putain de rencontre avec moi-même, un truc de fou. Parce que l'invitation, en tout cas dans ces ateliers ou ces stages auxquels j'ai participé, c'était vraiment une invitation à être dans le ressenti profond, dans son intériorité, un truc que j'avais jamais pratiqué. Et ça a été une rencontre à travers les autres, mais de moi. Et ça m'a permis de définir mon espace, mon décor, mes envies. Et en pratiquant même entre hommes, de découvrir la fraternité, la camaraderie, la non-compétition. Et ça a complètement changé mon paradigme sur les relations humaines. Chaque relation, chaque rupture m'ont permis d'adoucir le sentiment d'abandon, progressivement tenter de sortir du mode drame à ces moments-là, d'être plus dans la reconnaissance de la beauté de ce qui a vécu et pas forcément dans un espèce de maintien mordicus d'un truc qui ne doit pas bouger, qui doit rester. En fait, il y avait vraiment chez moi une peur de la fin. Aimer et laisser partir, ou aimer et partir. Vivre chaque rencontre pour moi elle est pas par hasard et je sais jamais à l'endroit de la rencontre ce qui va venir bouger comme ligne. C'est toujours après coup que je prends conscience. Pendant la relation, je peux prendre une part de conscience de ce qui est en train de se tramer, mais souvent c'est la décantation après où vraiment je me rends compte de ce qui a bougé en moi. Et de ce qu'a pu bouger en l'autre aussi, quoi. Et ça crée aussi des ruptures qui sont beaucoup moins dramatiques qu'elles ont pu être. J'ai l'impression que plus ça va et plus c'est simple. Ma première rencontre amoureuse, donc la mère de mon premier fils, ça a été juste, le monde s'est écroulé quand elle m'a dit « je me casse ». Avec la mère de mes deux autres enfants qui étaient là. Il y a eu quelques amourettes entre les deux, mais qui ont été vraiment brèves. Donc j'ai enchaîné quand même deux relations importantes avec des enfants au milieu, au bout de 17 ans de vie commune, et quand même une tentative de déconstruction sur au moins 5-6 ans, qui a été compliquée, parce que quand même 17 ans de vie commune, puis fasse pas ça d'un revers de main. Enfin, il n'est pas question d'effacer, il est question de passer à autre chose. C'est autre chose, c'est différent. Mais ça n'a pas été simple, parce qu'il y avait des fonctionnements, parce qu'on était habitués à vivre ensemble. Parce que moi j'ai nourri la croyance que si on faisait plus équipe, je savais pas si j'allais réussir à mener une vie digne, si j'allais réussir à me lever le matin, ce genre de croyance, tu vois. Et au final, ça a été, je crois, la meilleure expérience de ma vie, de pouvoir reprendre ma vie en main, me redécouvrir sur des zones où au final j'avais pas vraiment vécu seul de toute ma vie. Du coup, j'aborde ça un peu, le relationnel aujourd'hui, la vie amoureuse, comme une surprise tous les jours. En disant, bah, tout peut changer, tout peut lâcher, tout peut se transformer. J'ai cette croyance que j'ai plus envie de vivre avec une personne sous le même toit au quotidien. Mais pour autant, j'en fais pas une religion. J'accepte que ça puisse bouger, qu'il puisse y avoir des envies contradictoires. Et ça, quelque part, ça me met vraiment en joie, parce qu'il y a du mouvement possible, et ça évite de figer les choses. Il y a des grands moments de vertige au milieu de tout ça, mais je suis pas prêt à troquer le vertige contre une sécurité qui, je sais, va me faire chier au bout d'un certain temps, quoi. Si ça remet pas en question, si ça bouscule pas, je m'emmerde, en fait. Clairement.
Somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my night.
nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used all on another love, all my tears have been used all.
Je m'appelle Zélie et j'ai 19 ans. Et du coup, bah lui, je l'ai rencontré. Donc en fait, j'avais une amie, elle était chanteuse de son groupe de musique dans ma ville. Et donc je me suis fait cette amie, elle était en terminale et moi j'allais rentrer en seconde. Et donc je les ai vus sur scène, magnifique. J'ai trouvé le batteur magnifique. Et donc j'ai été parler très classiquement sur les réseaux sociaux. Mais si tu veux, la relation, elle a commencé bizarrement. Du coup, tu vois, juste je lui ai dit que c'était super ce qu'il avait fait. Et après, on a commencé à parler de tout, n'importe quoi. C'était en été, c'était à la fête de la musique en fait. Et après, j'allais rentrer en fait en seconde. Et on a beaucoup, beaucoup parlé. Je pense que je voyais que je le saoulais. Tu vois, le genre de nana, j'avais envie de parler avec lui. Et je pense toute ma vie, j'ai été, comme je te dis, éduquée avec des films où, en fait, il y a toujours un garçon dans la vie alors qu'on peut être heureux seul, tu vois. Et du coup, je lui ai écrit, on a parlé beaucoup tout l'été. Et arrivé au lycée, ben, je l'ai rencontré en vrai, quoi. À mes 15 ans, j'avais 15 ans. Pour mes 15 ans, j'ai sauté à l'élastique avec lui. Je l'ai emmené dans ce truc, on se connaissait pas. Et par la suite, eh ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé au mois de décembre, je crois, je lui ai fait comprendre que je l'aimais bien, quoi. Et là, il m'a dit, ça sera pas possible, parce que je lui plaisais pas. Et je pense qu'on a beaucoup grandi, même physiquement, je lui plaisais pas, et sûrement aussi mentalement, mais parce que moi, je m'empêchais d'être moi-même par peur de pas lui plaire, parce que j'avais envie de lui plaire. C'est vraiment une boucle un peu ridicule. ce qui s'est passé, c'est que bah, à partir de ce moment-là, c'était le départ pour qu'on soit amis, en fait, et vraiment amis. Donc j'ai été moi-même, il a été lui-même. Et pendant un an, ça a duré comme ça, même moins d'un an. Et arrivé, je pense... En fait, quand il a fini la terminale, lui, il est parti à Toulouse. Et il est parti commencer ses études, et nous, on était encore... Ah oui, c'est ça, c'est le confinement qui nous a reliés avant tout ça. Pendant le confinement, on n'a fait que parler. Il s'avère que ben, moi, j'avais 15 ans et j'ai eu des envies sexuelles, en fait, à ce moment-là aussi. Lui aussi, et lui avait 18, et bah, pareil, on n'avait jamais eu d'expérience tous les deux. Et il s'avère que du coup, comme on était meilleurs copains, on s'est dit, bah vas-y, en fait, on en profite. Et donc, à la fin du confinement, on en a profité. Et c'était plutôt régulier, en fait. On avait des rapports réguliers ensemble, même si on était meilleurs copains. Arrivé un moment, il m'embrassait, en fait. C'est un peu plus tard, parce qu'il avait commencé ses nouvelles études, tout ça. Je pense l'année qui suit, janvier qui suivait. Pas le décembre où je me suis fait friendzone, mais le décembre d'après, quoi. Et là, il continue à m'embrasser sur la bouche en disant que c'était des bisous d'amitié. Et arrivé à ce jour-là, je lui ai dit peut-être qu'on pourrait en parler. Et au final, il avait une énorme peur de l'engagement. Une histoire de liberté. Il me parlait beaucoup, il me disait beaucoup le mot liberté. Et je lui ai dit, mais en fait, moi je suis hyper amoureuse de toi, quoi. Et en fait, lui aussi, on se disait je t'aime, quoi. Et on a tenté. Et il s'avère que du coup, maintenant, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et donc, en fait, on a une vie de meilleurs copains, mais super. Et il y a des sujets tabous qui sont bêtes dans les couples, que bah, du coup, nous, on ne les vit pas, parce que dès le début, on s'est dit, bon, bah, y a des règles. Les règles, c'était un gros souci. Même là, je le déconstruis encore en lui disant, mais regarde, c'est pas sale, en fait, les règles. Et je sais pas, même aller à la selle, c'était un enfer. Pour moi, un gros stress dû à ma famille, je pense. Mais c'est quelque chose qu'il faut parler, il faut en parler dès le début dans la relation, parce que bah là, on est décomplexé. Et bah, moi, au début, je lui demandais de mettre un casque, et tant pis, de mettre sa musique pour que je sois rassurée. Et maintenant, on s'en fiche tellement... Je suis hyper heureuse. Le parcours est assez spécial, on va dire que moi j'étais à fond depuis le début, mais au final, quand je regarde en arrière, eh bien, je l'aime pas tant que ça, le Victor d'avant. Il était pas, c'était pas sain le début de relation, quoi, parce que moi j'allais tout le temps vers lui et il s'en fichait, et c'était, fallait pas que je continue. Mais il s'avère qu'en fait on est parfait, maintenant on s'entend tellement bien, on parle de tout. Et dès qu'il y a un problème, on en parle. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Et c'est bête. Moi, j'ai vu ça dans les films. La solution, c'est la communication. Mais en fait, c'est vrai. Il s'avère que c'est vrai. Parce que dès que tu arrives à exprimer tes sentiments, tes émotions, bah, ça règle tout, quoi. Déjà, à 19 ans, j'ai grave avancé sur me trouver jolie. Il y a des jours, je me trouve vraiment pas jolie. Mais d'autres fois, où je suis dans la glace et je me trouve jolie. Et c'est cool. Et des fois, c'est même... Ça m'aide aussi que Victor, il me trouve jolie au quotidien. Qu'il me dise que je suis belle et tout. Alors que je suis pas physiquement dans la norme, quoi, on va dire. Ouais. C'est surtout mes rondeurs, en fait. Hein. Quand je me regarde dans la glace, c'est surtout les poignées d'amour, mais pas au bon endroit. J'ai des petites fesses, donc ça fait un truc un peu spécial. Mais en même temps, des fois, je me regarde, je dis, bah, c'est joli. Pourquoi je me prends la tête? Et c'est en me trouvant jolie que les autres me trouveront jolie. Et puis, la beauté, elle n'est pas que dans le physique. Au final, ça, je m'en suis bien rendu compte. Et il y a des gens qui dégagent des trucs super et ça les rend beaux, en fait. Il n'y a pas besoin de regarder l'extérieur. Et ouais, il faut tout déconstruire. C'est vrai que c'est compliqué. Mais dans ses yeux, tous les jours, je me trouve jolie. Parce que je vois tous les jours qu'il me trouve magnifique et il me le dit. Donc... Mais ça fait tellement du bien. En ce moment, moi, je suis en formation et lui, il n'a rien à faire, en fait. Donc, il aime bien cleaner la maison. Bon, c'est un fait, c'est top. Et le matin, je me réveille et sur le plan de travail, il y a une assiette au cas où je vais prendre... je sais pas, une tartine. Il y a un bol au cas où je veux me faire mes céréales. Il y a une cuillère, un couteau. Et il a sorti les céréales, la pâte à tartiner, les différents verres en fonction de ce que je veux me faire à boire. Et pour moi, mais je trouve ça tellement mignon. Il me prépare un petit truc tous les matins en ce moment. Moi, je trouve que c'est un geste d'amour énorme. C'est un petit détail, et pourtant, on pourrait trouver ça bête. Mais moi, je trouve ça trop, trop mignon.
Un jour que j'étais dans mon antre, où l'on entre sans frapper, quelqu'un a pris l'escalier sur une petite idée de colimaçon. Il était maçon, il avait les mains tendres, et de quelle façon il m'a bien fait comprendre que de tout l'immeuble j'étais la voisine qu'il avait le plus envie d'aimer. Alors j'ai dit merci, merci beaucoup, mais voyez-vous, je viens d'emménager dans cet appartement où je vis seule tout simplement. Mais au même moment j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé. Tam tabadam 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 tam tabadam 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 tam. L'amour a frappé à ma porte. Tabadam tam tabadam 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 tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam tabadam 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 tam tabadam 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 tam. Tout mon squelette est ravi. Tabadam tam tabadam tabadam. Et ça, je l'emporte au paradis. Oh, 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 mais Seigneur, ah oui, oui, Seigneur, aïe, Seigneur. Et ça, mon Dieu, je l'emporte au paradis. Eh, Seigneur, il faut que je m'agace. Pour l'heure, il faut que je ressasse. Mes sentiments égarés, mes poules oubliées, mon ressort abîmé. Et oui, Seigneur, il faut que je m'agace. Pour l'art, il faut que je ressasse. Tout mon squelette en entier, mes plaies non suturées, en mon cœur isolé. Votre amour tombe à pic. Oh oui, mais moi, je vais tomber de très haut. Si vous ne me laissez pas le temps tactique me remettre en selle au galop. Mais au même moment j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé. Tam tabadam 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 tam tabadam 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 tam. L'amour a frappé à ma porte. Tabadam tam tabadam 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 tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam tabadam 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 tam tabadam 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 tam. L'être est ravi. Tabadabadam tam tabadam tabadam tabadabadam tam. Et ça, je l'emporte au paradis. Mais Seigneur, oui, oui, Seigneur. Et ça, mon Dieu, je l'emporte au paradis.
Barbara, j'ai 11 ans. J'avais 6-7 ans, je crois. Il n'était pas dans la même école que moi, mais et du coup, on était ensemble. Et après, une fois, elle m'a dit qu'il est amoureux de moi. Et moi, j'ai dit moi aussi. Et du coup, après, on était ensemble.
Je m'appelle Talia et j'ai 11 ans. Je crois que c'était l'année dernière, j'étais amoureuse d'une personne qui s'appelait Valentin. Avec ma copine, on était toutes les deux amoureuses de cette personne-là. En fait, il avait énormément de filles à chaque fois qu'il lui demandait tout le temps. Et du coup, il répondait non. Du coup, avec ma copine, c'était un désespoir qu'on avait. Mais après, bah, voilà. Après, j'ai réussi à trouver l'amour de ma vie, on va dire. Genre, j'ai vraiment trouvé le bon. Des fois, en fait, du fait qu'on le dise à nos copains, et eux, ils étaient là. Ouais, non, mais imagine, ils traînent avec des filles, nanana. Et du coup, bah, moi, j'étais vraiment, je croyais à tout, absolument tout ce qu'on me disait. Du coup, bah, des fois, j'allais voir et lui, il disait que non, lui, voilà. Ou alors, des fois, il m'accusait de choses que moi, j'avais pas faites. Et en fait, ça nous menait à des embrouilles n'importe lesquelles. Du coup, il y a pas longtemps, on a dit qu'on se remettait ensemble sans le dire à personne. Donc, du coup, que Talia était au courant. Mais voilà, après ça n'a pas duré longtemps parce que pareil, la dernière fois, il m'a accusé de quelque chose que je n'avais pas fait. Du coup, là, on n'est plus ensemble, mais on reste comme ça pour l'instant. Bah, on est tous un peu jaloux de notre côté. Il y en a qui le montrent, d'autres qui ne le montrent pas. Mais oui, il y a des moments où oui, j'étais jalouse quand il restait avec des copines à moi. Après, oui, des années défilent et c'est là où on commence un peu à mûrir et se dire que bah, être jaloux, finalement, ça ne sert un peu à rien, quoi. C'est si t'aimes vraiment, il reste avec toi. Et après, sinon, non, il va voir ailleurs.
Talia, j'ai 11 ans. Quand j'étais petite, j'habitais pas en France. Et j'habitais à Saint-Martin. Et chez ma nounou, bah, c'était sa maman à mon amoureux. Et on était tout le temps, mais tout le temps ensemble. Après, je suis partie en France pour ma petite section. Et de ma petite section à mon CP, à peu près, j'ai tout le temps, je disais toujours que c'était mon amoureux. Donc, j'ai pas eu vraiment d'amoureux dans cette période. Après, en CE1 et en CE2, CM1 et CM2, oui, j'en ai eu plusieurs. Ma dernière relation, c'était avec un garçon de ma classe. On est restés un an et demi ensemble. Et on s'est séparés il n'y a pas longtemps. Rester longtemps avec une personne, c'est compliqué. Enfin, t'as toujours de la peine quand cette personne, eh ben, elle te dit on n'est plus ensemble. Enfin, voilà. Mais après, c'est mieux que ça s'arrête au lieu de qu'on se dispute et tout, moi, je trouve.
Enfin, nous, on est juste amoureux, il n'y a vraiment pas plus. Alors, des fois, quand on est plus grand, il y a des rapports, ils se font des bisous. Enfin, voilà, Donc oui, des fois, regarder ou savoir comment ça se passe, ça peut être toujours intéressant, même si, des fois, les autres peuvent dire « Ah non, c'est dégueulasse, non, y en a. » Alors qu'en fait, si on ne sait pas, au bout d'un moment, on ne va pas s'en sortir dans la vie. Il faut apprendre et on apprend de chaque chose. Et l'amour aussi, on peut en apprendre beaucoup. Moi, je trouve que déjà, on travaille, donc ce qu'on travaille en sciences et la puberté, je trouve que c'est déjà très important parce que ça nous apprend à vivre de notre corps. Donc à savoir ce que c'est l'amour, même si c'est pas à moi, c'est pas forcément à mes parents qui me l'ont appris. Je me suis un peu débrouillée toute seule, même si mes parents ont toujours été derrière moi. Mais oui, c'est important de savoir parce qu'il y en a qui ont des définitions que les autres n'ont pas ou que, pour pas que ça fasse...
En CM1, c'était comme un sujet tabou, alors que là, en CM2, maintenant qu'on en parle tous les mardis, on est plus libérés. Parce que pour nous, c'est normal, il n'y a rien de bizarre, alors qu'avant, c'était bizarre quand même.
En CM1, ils étaient là, ah, mais t'es amoureux de lui et tout, il est moche, nani, nana. Et en fait, c'était vraiment que du jugement, genre t'étais avec quelqu'un, en fait, il fallait que ton copain... plaise à tes autres copains, sinon c'était tout de suite « Ah, mais il est moche et tout, nanani, nanana ». Alors qu'en fait, on a des goûts amoureux que les autres n'ont pas forcément. Et en fait, faut pas juger les goûts amoureux que les autres ont et que nous, on n'a pas. Alors que en fait, c'est exactement la même chose, que nous, on aura des amoureux dans la vie que d'autres n'aimeront pas, mais faut pas juger. Faut pas juger sur ça, il faut juger sur rien. Nous, on est des filles, ça peut être un garçon ou alors ça peut être très bien une fille. C'est un sentiment amoureux qu'on a et en fait, c'est pas forcément nous qui le contrôlons. C'est vraiment un truc en nous. Donc, si ça tombe sur des garçons, ce sera sur un garçon là que t'auras un coup de foudre. Et sinon, ça peut être sur des filles. Des fois, ça dépend, mais pareil, ça, faut pas juger. Si t'es amoureux d'une fille, c'est parce que c'est en toi, ça a décidé ça et c'est pas aux autres de juger. C'est chacun a sa relation amoureuse.
Moi, j'ai été élevée avec mes parents où toujours on a été très ouvert d'esprit avec, par exemple, les filles entre filles, les garçons entre garçons, les noirs avec les blancs. Enfin, à chaque fois, tout le monde peut être amoureux de qui on veut. Mais certaines personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit, par exemple, les parents qui disent « Ah ben tiens, faut pas aimer les noirs, faut pas que les filles elles soient amoureuses entre elles, ni les garçons », et ben à chaque fois, les enfants, ils vont être comme ça, vu que leurs parents leur ont dit ça. Alors que je me dis, c'est, on est tous égaux, faut tous qu'on soit pareil, parce que le jugement, tout le monde, déjà à l'époque, tout le monde était en jugement. Alors que là, je me dis, vraiment, ça sert à rien si tu te sens plus heureuse avec une personne qui est une fille ou un garçon ou une personne qui habite très très loin ou quoi que ce soit. Tu dois être heureux avec la personne que tu es, mais personne doit décider pour toi. C'est pas toujours simple, hein, parce qu'il peut avoir des gens bah, toujours dans le jugement, parce que même s'ils disent « mais non, mais c'était pour rigoler », ça t'atteint quand même, il n'y a pas à dire. Mais après, l'amour, c'est compliqué parce que tu dois trouver la bonne personne, la personne gentille. En fait, il faut que ça soit toi qui décides et que ça soit tes goûts parce que l'amour, c'est compliqué. On va dire que moi, j'aime bien être carrée et tout, mais après, j'aimerais pas avoir quelqu'un qui fait n'importe quoi à la sortie des cours. Par exemple, il va faire n'importe quoi ou il sèche les cours. Non, il faut quelqu'un que ça soit quand même assez droit. Au moins, je suis toujours sûre d'avoir une vie quand même stable parce que j'aime pas trop le changement, moi. Après, c'est toujours bien d'avoir un petit changement. Enfin, c'est génial, hein, mais je préfère quand même que ça reste dans le droit chemin, toujours bien, et surtout la gentillesse, c'est hyper important.
Bon, mon copain, il faudrait que... En fait, il faut que quand on est ensemble, l'amour se définit, c'est qu'on s'entraide et on s'aide. Du coup, il faut que je le suive dans ses aventures à lui, donc dans son sport, dans son métier, etc. Et en échange, lui aussi, il faut qu'il me suive. En fait, c'est un sentiment amoureux qu'on a des deux côtés et c'est de l'entraide entre nous deux. Genre, si jamais... je dis bien au futur, hein, j'ai un copain, etc., on décide de faire un enfant, ce sera notre truc à nous deux et ce sera vraiment bah, en fait, nous qui allons nous solidariser ensemble pour pouvoir l'élever, pour pouvoir lui apprendre des trucs, etc. Donc oui, c'est, quand t'as un copain, il faut énormément qu'on soit en gros ensemble, qu'on soit unis et que genre, ce soit pas on se fait la tête toutes les 3 secondes ou on s'entend mal, parce qu'après, sinon, je pense que ça peut pas le faire. Et puis moi, je sais que j'ai mon frère qui a un caractère un peu compliqué, donc je sais que les disputes de famille, ça devient lourd sur le dos. Donc au bout d'un moment, oui, je sais que quand t'as un copain qui est là, t'es sûr qu'il peut te soutenir et qu'il peut t'aider un peu dans tes problèmes de famille. Je sais que ça fait énormément de bien.
Maëlle, 11 ans. J'étais amoureuse et elle m'a quittée pour un autre monsieur. Ouais, un autre mec. Et après, du coup, en fait, j'étais amoureux d'une autre personne. Et elle aussi. Donc, on s'est mis ensemble. Et voilà, c'était bien. C'est bien. Ça dépend quand, hein, mais voilà.
Bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 10 ans. Bah, je sais pas trop comment expliquer, mais par exemple, quand il y a un garçon et que tu le trouves beau, bah, enfin... Ouais, enfin, t'as des sentiments, enfin, t'aimerais bien et que lui et toi, enfin, vous, enfin, je sais pas comment expliquer, mais que je sais pas trop. Bah, moi, j'ai déjà été amoureuse d'un garçon qui est dans la classe, mais lui, il était pas amoureux de moi. Après, j'ai déjà été en couple 2 fois. Je dis les noms ou pas? Bah, j'ai déjà été avec Maltaris et avec Karl. Bah, en gros, moi, j'étais amoureuse de lui. Et en gros, bah, je suis allée lui demander s'il avait des sentiments pour moi. Enfin, voilà. Et bah, après, il a dit oui. Après, c'est comme ça qu'on s'est mis en couple. La première fois, c'était au stade. Mais comme j'étais gênée, c'était pas moi. C'était une des filles qui était allée lui demander. Et après, bah, avec Karl, c'était moi. Je lui avais fait un mot et c'était dans la classe.
Moi, je m'appelle Nasrine et j'ai bientôt 11 ans. J'étais amoureuse de lui l'année dernière. Et bah, cette année, il m'avait envoyé un mot comme quoi il était aussi amoureux de moi. Et ensuite, il a demandé à Luna et moi, j'ai dit oui.
Maëlle, et j'ai 11 ans. Bah, être amoureux, pour moi, c'est être en couple. Bah, c'est dire quand t'es très proche de l'autre.
Pour moi, être amoureux, c'est comme un truc qui se passe dans ta tête et que tu peux rien faire contre.
Être amoureux, c'est... avoir un bonheur d'être amoureux,
C'est un ressenti, on va dire, de l'amour, quoi, moi, je trouve ça agréable.
C'est avoir des sentiments plus que de l'amitié et avoir envie, des fois, de tracer un peu sa vie avec cette personne.
Pour moi, être amoureux, c'est aimer une personne un peu plus que tous les autres. Enfin, tu apprécies la personne et t'as envie de passer plus de temps avec lui ou avec elle, je sais pas. Bah, t'es gêné déjà devant la personne, tu bégayes un peu, t'es stressé un peu aussi de lui parler tout ça, mais t'as envie de passer plus de temps avec lui.
Je m'appelle Étienne, j'ai 11 ans, et pour moi, l'amour, c'est avoir des sentiments pour quelqu'un que tu apprécies parce que il a peut-être des qualités que tu aimes bien, avec quelqu'un que tu arrives bien à t'exprimer et que tu aimerais rester avec.
Être amoureux, c'est quand t'es amoureux d'une personne, que ton cœur est rempli d'elle un peu ou de lui. Voilà, c'est tout.
Menstruel, adjectif.
C'est quand t'as des sentiments pour elle, substantif, ton cœur y bat.
Éclaté, verbe intransitif.
Clandestine, adjectif.
Hémorragie menstruelle.
Coureur de filles, coureuse de garçons.
Journal clandestin. Presse clandestine.
Domaine des sensations. Domaine
de. Les filles sont ordinairement pubères vers l'âge de 11 ou 12
qui
ans.
Qui existe. Entre parenthèses, trois petits points.
Fonctionne.
Se briser avec violence.
Se fait de manière secrète.
Soudaineté.
En dehors de ceux qui exercent l'autorité.
En projetant des fragments.
À l'encontre des
ballons,
lois établies.
Mine, vitres qui
l'abondance de cette évacuation périodique varie chez les différents individus.
Assemblée, démarche.
Les gamins
de
font
la dure, normale et licite.
Le gonflement des mamelles et l'éruption du flux.
Emploi adjectif.
En sont les préservatifs.
Surtout en Espagne et en Italie.
Bon
le récipient dans lequel je fabriquais de l'hydrogène m'éclatait
dans la constitution et de leur manière
il ne serait pas du cavaleur. D'un choc ou d'un changement
de l'abattement, de l'hypotension avec tendance au lipotimie.
En parlant d'un inanimé menstruel fréquent.
Entre parenthèses, Rossignol. dict.darg.arc.fr et fr.arc.1901, page 24.
Les menstruelles, correspondance éclatée à X voix.
Gymnastique sonore, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez entendu Faire le plein amour, le 4e épisode, proposé par le collectif Les menstruelles, que l'on retrouve régulièrement dans l'émission. Si cette séance de gymnastique sonore ne vous a pas suffi, rendez-vous dans les archives sur canalb.fr. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.